Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Ce sont les pages d'une somme sur la Chine que je vous propose de feuilleter aujourd'hui en compagnie de Françoise Thibault, professeur à l'Université de Poitiers et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Françoise Thibault, bonjour.
Bonjour. Cette somme sur la Chine dont nous allons parler ensemble est un ouvrage de 700 pages dû à Jacques Gernet et qui s'intitule « Le monde chinois ». C'est la 4e édition, revue, corrigée, augmentée, qui vient d'être publiée chez Armand Collin.
Françoise Thibault, vous venez de lire cet ouvrage et vous avez accepté de partager vos impressions de lecture avec les auditeurs de Canal Academy. Alors, vous nous disiez donc qu'on peut lire aujourd'hui cet ouvrage, Le Monde Chinois, en un seul volume. Mais autrefois, il avait été publié en plusieurs tomes.
Oui, les premières éditions en 1972 entraient dans une collection plutôt historique qui était dirigée par le grand Fernand Braudel, intitulé « Destin du monde ». Et cette série a connu deux rééditions en 1980 et en 1990. Et puis finalement, Jacques Gernet et son équipe de chercheurs ont décidé de faire un ouvrage unique qui rassemble tous les horizons sous lesquels ils ont pu observer la Chine. Donc c'est un ouvrage qui en fait est composé de 11 livres différents, répartis en chapitres, et qui aborde sous tous ses aspects le monde chinois.
Alors Françoise Thibault, avant de détailler ce livre que vous avez lu en détail, je vous propose de dresser brièvement le parcours et la carrière de Jacques Gernet. C'est l'un des sinologues les plus connus au monde et c'est en France le maître incontesté des études chinoises. Il est aujourd'hui et depuis 1992 professeur honoraire au Collège de France où il a tenu la chaire d'histoire sociale et intellectuelle de la Chine. Et Jacques Gernet, bien sûr, est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il a été élu le 8 juin 1979 au fauteuil de Paul de Miéville et Paul de Miéville fut lui aussi un éminent sinologue.
Oui, il fut son maître.
Et de Miéville, après un long séjour en Orient, était devenu professeur de chinois à l'école des langues orientales. Alors là, c'était avant la guerre, la dernière guerre. Puis il est devenu directeur d'études à l'école pratique des hautes études, où il avait inauguré un cours de philologie bouddhique. Et Paul de Miéville remplacera un autre grand sinologue, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Henri Maspero, à la chaire de langue et littérature chinoise du Collège de France. Alors on voit bien d'ailleurs, Françoise Thibault, que ces grands sinologues sont tous à la fois membres et professeurs au Collège de France, membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et par ailleurs aussi membres de la Société asiatique.
Voilà. Et il y a une très grande continuité. Ils se transmettent le flambeau de génération en génération. Les plus anciens prennent aux plus jeunes. Et vous avez comme ça une mentalité chinoise en France qui est très savante et qui est tout à fait remarquable. Tous ces messieurs, qu'il s'agisse de Maspero, de Miéville ou de Jacques Gernet, sont membres d'un nombre d'académies incroyables dans le monde entier, les anglaises, les américaines, les japonaises, les orientales, de tout craint, je dirais, et sont traduits dans énormément de langues. Moi, ce qui m'a ébloui quand je suis allée en Chine du Sud, c'est que les Chinois eux-mêmes se réfèrent aux ouvrages de Jacques Gernet pour comprendre leur propre pays.
Ah oui, ça c'est évidemment un critère. Alors, c'est donc Jacques Gernet qui a succédé, comme je le disais, au fauteuil de Paul de Miéville. Alors, Jacques Gernet est né en 1921. Il avait commencé des études de lettres classiques qui ont été interrompues par la Seconde Guerre mondiale. Il a été mobilisé, il a participé activement à la campagne contre l'Allemagne de 1942 à 1945. Et c'est après la guerre qu'il a entrepris un diplôme de chinois à l'École nationale des langues orientales vivantes, comme on l'appelait à l'époque, puis à l'École pratique des hautes études. Alors Jacques Gernet a été à Hanoï membre de l'École française d'Extrême-Orient, cette fameuse école qui là aussi regroupe pas mal de grands sinologues, où il a effectué de nombreuses missions. Puis quand il est revenu à Paris, il a enseigné à l'École pratique des hautes études et il a poursuivi une carrière de professeur d'université à la Sorbonne et à Paris 7 Denis Diderot, puisqu'il a fondé et dirigé là l'UR de langues et civilisations de l'Asie orientale. Et puis on peut dire encore que en 1975 et jusqu'en 1992, Jacques Gernet est professeur au Collège de France où il tiendra la chaire d'histoire sociale et intellectuelle de la Chine, comme nous le disions tout à l'heure. Et maintenant il est professeur honoraire au Collège de France. Alors évidemment, vous l'avez souligné, Françoise Thibault, il est membre de très nombreuses académies étrangères, tant en Orient, en Chine et au Japon, qu'en Occident, en Italie, en Allemagne, et fait assez rare, justement, je crois, membre de la British Academy de Londres.
Exactement.
Alors, pouvez-vous, Françoise, nous faire un résumé des œuvres publiées par Jacques Gernet ? Parce qu'il en a publié tellement que je pense qu'on ne peut pas être exhaustif, mais on va tout de même donner une idée de ses publications.
Il y a une cinquantaine d'ouvrages majeurs, pratiquement un tous les deux ans, et un nombre d'articles, de chroniques considérables. Il y a également ses cours, notamment les cours du Collège de France, qui mettent en relation le social et l'intellectuel, qui sont tout à fait remarquables et que l'on retrouve dans le monde chinois à certains chapitres. Sur la cinquantaine de publications majeures que l'on peut trouver, ce qui représente une somme considérable, on peut extraire « La vie quotidienne en Chine », qui est un ouvrage paru aux presses universitaires de France, et puis également un ouvrage en 1964 qui a connu 5 rééditions et de multiples traductions, « La Chine ancienne, des origines à l'Empire ». Il y a également un très beau livre publié chez Gallimard en 1994, intitulé « L'intelligence de la Chine, deux points, le social et le mental ». Et je crois que c'est un des ouvrages les plus remarquables sur la mentalité chinoise, où Jacques Gernet nous explique que l'individu chinois est en fait un individu à la fois unique et multiple, car il est dans sa société complètement. Et il nous explique ça sous l'angle de la sanction, par exemple. Quand un individu fait une faute, la punition, très souvent, n'est pas individuelle. Encore aujourd'hui, dans la Chine populaire, elle est collective. Quand une femme n'obéit pas, par exemple, aux lois de la procréation, eh bien, ce n'est pas elle qui est punie, c'est son village. Par une suppression d'une allocation quelconque, par un arrêt d'autobus supprimé. Donc, s'il n'y a plus d'autobus pour aller en ville vendre ses poules et ses œufs, eh bien, le village sera moins riche. Donc, il nous explique ça très joliment, avec des références à la fois anciennes, historiques et modernes. Et c'est un livre pas très important sur le nombre de pages, mais très, très beau. En 1966, dans les mélanges offerts à Paul de Miéville, vous avez une petite chronique extrêmement drôle, pleine d'humour, car Jacques Gernet écrit avec beaucoup de légèreté et d'humour, qui a trait à la location des chameaux pour des voyages à Tueng Wang. Et là, il nous décrit les longues négociations qui ont trait à la location des chameaux. J'avoue que ça vaut son pesant de cacahuètes. Il y a également de très beaux articles sur le char chinois, très différent du char européen. Il y a des travaux sur les contacts et les interférences entre la Chine et l'Europe. Alors là, il y a énormément de travaux, notamment qui retracent le rôle des jésuites de Matteo Ricci et les stratégies de conversion observées par les jésuites puis les dominicains dans les confins de la Chine et la façon dont il y a eu une interpénétration entre l'Europe et la Chine. Et il y a également une très belle chronique consacrée au premier catéchisme chinois de 1584. Donc vous voyez que c'est à la fois très varié, très social, également économique et très largement historique. En fait, on couvre beaucoup de champs de connaissances à travers les travaux de Jacques Gernet.
un grand maître, incontestablement. Alors, si vous voulez bien, Françoise Thibault, venons-en maintenant à cet ouvrage dont nous parlions, c'est-à-dire Le Monde chinois. Je ne sais pas si c'est l'ouvrage le plus important de Jacques Gernet, mais en tout cas, c'est le plus connu, sans doute le plus lu aussi. Et pourriez-vous justement... Non, j'avais pensé que je pourrais vous lire un petit passage du début de ce qu'il écrit dans son introduction, parce que ça explique le titre, c'est Comment définir la Chine ? Alors, si vous voulez bien, Françoise, me prêter le livre que nous avons sous les yeux dans ce studio, je vais vous lire cette introduction, le début, rassurez-vous. Comment définir la Chine ? Est-elle celle des cités-palais de l'âge du bronze et la multitude des petites seigneuries disséminées dans le bassin inférieur du fleuve jaune au deuxième millénaire ? Ou celle des sept grands royaumes de la fin de l'Antiquité qu'unifia le roi de Qin en -221 et qui, vers le sud, ne dépassait guère la vallée du Yangtze, celle des royaumes fondés en Chine du Nord par des populations de la steppe au IVe et Ve siècle de notre ère, ou la Chine lettrée, commerçante et maritime, amputée de ses provinces du Nord au XIIe et XIIIe siècle, ou encore le seul véritable empire de l'histoire que créa la dynastie sino-mandchoue avec ses immenses protectorats d'Asie centrale, du Tibet et de la Mongolie. La diaspora chinoise d'aujourd'hui dans tous les continents ne ferait-elle pas elle aussi partie de la Chine ? À cette réalité protéiforme qui n'a cessé de se transformer au cours des millénaires, ne fallait-il donc pas plutôt donner le nom de monde chinois ? Et c'est bien ce que fait Jacques Gernet dans son introduction pour ce gros ouvrage de 700 pages. Alors Françoise Thibault, comment se structure ce livre ? Quel plan a adopté Jacques Gernet ?
Eh bien, le livre est divisé en 11 livres qui donnent une approche chronologique, historique, mais en fait, à travers cette approche chronologique et historique, pour chaque livre, vous avez des titres et des intertitres consacrés non seulement au pouvoir et à l'histoire pure, notamment l'histoire guerrière et politique, mais de nombreux chapitres consacrés à l'évolution économique, sociale, à la vie intellectuelle, aux différentes crises, aux transformations de la société, au contact avec l'Occident.
Et à la géographie aussi.
Et à la géographie.
Il explique très bien la localisation des provinces, parce que nous, on s'y perd un peu dans toutes ces provinces, on se perd un peu dans la chronologie et aussi dans toutes les provinces. Oui. Donc, il nous met les idées au clair, n'est-ce pas ?
Je crois que c'est un des aspects parmi les plus éclairants de cet ouvrage. En effet, il nous donne les clés pour comprendre le monde chinois de l'âge de bronze au 21e millénaire. Il nous explique l'immense diversité et surtout l'immensité géographique chinoise. Je crois que c'est un des aspects qu'on oublie trop souvent car nous jugeons un peu la Chine d'après notre toute petite géographie européenne et il nous démontre que l'immensité chinoise explique sa diversité, explique les interférences entre les peuples, les différentes civilisations, les différentes cultures, les innombrables langues, car il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Chinois qui ne se comprennent pas entre eux, et que la diversité explique aussi la multitude. La multitude explique les soumissions extrêmes, les famines, les bains de sang, les œuvres gigantesques réalisées collectivement. Mais cette diversité et cette multitude expliquent aussi les insoumissions, les originalités, les extravagances, le goût de l'extrêmement raffiné, car pour s'extraire de la multitude et de la population informe, il faut se surpasser, se dépasser. Donc la Chine offre une variété de créations et une variété sociale à travers l'œuvre de Jacques Gernet qui nous laisse très étonnés. Et par exemple, il nous dit, page 309 de ce livre, que l'étonnement de Marco Polo, la surprise de Marco Polo à la fin du XIIIe siècle n'est pas feinte. En effet, le décalage entre l'Asie orientale et l'Occident chrétien est frappant. Et il suffit de rapprocher dans chaque domaine le monde chinois du monde chrétien de cette époque pour être convaincu du retard très considérable de notre Europe. Ce retard de l'Occident n'a rien qui puisse surprendre. Les cités italiennes qui s'animent d'une vie nouvelle à la fin de notre Moyen-Âge sont au terminus des grandes routes commerciales de l'Asie. Située à l'extrémité du continent eurasien, l'Europe est à l'écart et la Chine, elle, est au centre.
Voilà, une façon de comprendre, en effet. Je crois, François Thibault, qu'il n'est pas exagéré de dire que quiconque veut véritablement connaître la Chine, s'informer, avoir une vue globale et complète de ce pays immense, doit lire ce livre, Le Monde Chinois, de Jacques Gernet, et qu'il est très facile à lire, n'est-ce pas, d'une certaine façon.
Alors évidemment, il n'est pas question de lire les 11 livres et les 700 pages d'un seul coup.
On n'est pas obligé.
On n'est pas obligé, et c'est pratiquement impossible. Néanmoins, le style est très alerte, très joyeux. On est très heureux quand on lit ce livre, on devient intelligent avec plaisir. Et je crois que c'est une des très grande qualité de ce travail. Par ailleurs, il faut ajouter qu'il y a beaucoup d'économies, beaucoup d'observations sociales, un nombre non négligeable de statistiques.
Oui, beaucoup de tableaux aussi.
Beaucoup de tableaux.
De points de repère, et c'est très pratique. Il y a un côté pratique dans ce livre.
Il y a des cartes, il y a des diagrammes, il y a 5 index faits d'une manière remarquable et qui sont bilingues, à la fois en chinois et en français, sur les noms propres, sur les lieux géographiques, sur les sujets, sur les différents aspects de la civilisation. Et puis, il faut ajouter, et je crois que c'est très important, que la Chine moderne n'est pas négligée. Les 200 dernières pages nous expliquent le déclin de la Chine, les ravages de la pénétration occidentale et comment la Chine s'est reconstruite dans un nouveau nationalisme. Et on termine cet ouvrage avec une interrogation. Cette Chine qui se présente comme unique est quand même encore aujourd'hui extrêmement diverse, et on peut se demander combien durera cette unité chinoise.
Voilà, on devrait dire les Chines au lieu de
les
dire
Chine.
La Chine finalement.
Oui.
En tout cas, je veux vous redonner une fois de plus les références de cet ouvrage dont nous avons parlé avec François Thibault, Le Monde Chinois, donc de Jacques Gernet, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, est paru chez Armand Collin dans une grosse édition unique qui permet d'avoir un volume important. Et je voudrais aussi vous préciser que dans une autre émission sur Canal Académie, l'émission Point de Mire, qui est consacrée à la société asiatique, il est bien sûr de nouveau question de Jacques Gernet, si vous voulez en savoir plus. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.